Une main sur le pommeau de son épée et faisant sauter un caillou dans la paume de l'autre, Gawain Trakand passa de nouveau ses hommes en revue pour s'assurer de leur position tout autour de la colline au sommet hérissé d'arbres. Soulevant des colonnes de poussière dans la plaine moutonnante semée d'herbes jaunies, un vent sec faisait onduler la cape verte très ordinaire qui pendait dans le dos du jeune homme. Autour de lui, il n'y avait rien à voir, à part une vaste étendue dont quelques bosquets et des amas de buissons ratatinés brisaient fort heureusement la monotonie. S'il devait y avoir une bataille, Gawain n'aurait pas assez d'hommes pour un front si vaste. Il avait quand même disposé ses forces par groupe de 5 hommes d'épée, plaçant 50 pas derrière eux des archers qui étaient pour ainsi dire adossés au pied de la colline. Près du camp, sur la crête, 50 lanciers et leurs montures attendaient d'être éventuellement engagés dans la mêlée à venir. Mais Gawain espérait ne pas devoir aller jusque-là en ce jour. Au début, la jeune garde était plutôt clairsemée, mais sa réputation grandissante avait attiré beaucoup de recrues. Des renforts qui se révéleraient utiles, car aucun bleu n'était autorisé à quitter Tarvalon avant d'être correctement entraîné. Aujourd'hui, Gawain ne s'attendait pas à devoir ferrailler plus que tout autre jour, mais d'expérience, il savait que les choses arrivaient quand on les escomptait le moins. Et seuls les Aes Sedai étaient capables d'attendre la dernière minute pour avertir un homme d'un événement tel que celui qui se produirait durant cette journée.
« Tout va bien ?»
demanda Gawain en s'arrêtant devant un groupe de 5 hommes. Malgré la chaleur, certains portaient comme leur chef la cape verte ornée sur la poitrine d'un sanglier blanc représenté en pleine charge. Le plus jeune soldat du groupe, Jisao Amora, avait encore un sourire d'adolescent. Pourtant, c'était le seul des 5 soldats qui arborait au col une petite tour d'argent, l'emblème identifiant un vétéran des combats qui avait eu lieu à la Tour Blanche.
« Rien à signaler, Seigneur !»
répondit-il. La jeune garde méritait bien son nom. Alors qu'il avait à peine un peu plus de 20 ans, Gawain comptait parmi les soldats les plus âgés. Respectant une règle non écrite, la jeune garde n'acceptait aucun homme ayant déjà servi dans une armée, guerroyé pour un seigneur ou une dame, voire simplement travaillé comme garde du corps d'un marchand. Les tout premiers membres étaient des jeunes hommes, parfois encore des gamins, venus à la Tour Blanche pour être formés par les champions, les meilleurs escrimeurs du monde et les guerriers les plus redoutables. Et cette tradition se perpétuait partiellement, même si les champions n'intervenaient plus dans cette affaire. De toute façon, la jeunesse n'était pas un handicap. Une semaine plus tôt, la jeune garde avait organisé une cérémonie pour célébrer la première moustache digne de ce nom, au lieu d'un pathétique duvet, que Benji d'Alfort avait sacrifié sous le fil de son rasoir. Pourtant, Benji arborait sur la joue une balafre récoltée pendant les premiers combats, au sein du complexe de la tour. Après la chute de Siwan Sanche, les Aes Sedai, pendant un temps, avaient été bien trop occupés pour guérir les combattants. Pourtant, sans la jeune garde, qui avait affronté nombre de ses anciens professeurs, leur infligeant une terrible défaite dans les couloirs de la tour, la chère Damerline destituée aurait sans doute encore été à son poste.
« Tout ça est-il vraiment utile, Seigneur ?»
demanda Hal Moir. De 2 ans plus vieux que Chisao, il ne portait pas la tour d'argent à son col. Bien entendu, à l'instar de tous ceux qui étaient dans son cas, il regrettait de ne pas avoir été là pour la mériter. Mais avec le temps, il finirait par apprendre.
« On n'aperçoit pas l'ombre d'un aïeul, Seigneur !» « Tu crois vraiment ?»
Sans avertissement, Gawain lança son gros caillou sur le seul buisson assez proche pour qu'il puisse le toucher. Il n'y eut aucun son, à part celui des feuilles mortes froissées, mais le végétal ratatiné trembla un peu plus qu'il l'aurait dû, exactement comme si l'homme caché derrière avait été atteint à un endroit particulièrement sensible. Alors que les nouvelles recrues en crièrent de surprise, Jisao se contenta de vérifier que son épée coulissait bien dans son fourreau.
« Hal, un aïeul peut se taper dans une irrégularité du sol qui ne te ferait même pas trébucher. »
Si sa connaissance des aïeuls était purement livresque, Gawain, dans la bibliothèque de la tour, avait lu tous les ouvrages jamais signés par des soldats qui les avaient affrontés et qui savaient donc de quoi ils parlaient. Un homme avisé devait se préparer à l'avenir, et le futur du monde, désormais, semblait être la guerre.
« Mais si la lumière le veut, nous ne nous battrons pas aujourd'hui. »«
Seigneur ! Seigneur ! »
L'appel montait du sommet de la colline, où un guetteur avait repéré ce que Gawain avait lui aussi remarqué du coin de l'œil. À quelques centaines de pas à l'ouest, 3 femmes venaient de sortir d'un petit bosquet et elles se dirigeaient vers la colline. Une surprise. Mais les aïeuls en étaient friands. Gawain savait que des aïeuls combattaient aux côtés des hommes. Mais ces 3-là auraient eu bien du mal à se battre, accoutrées comme elles l'étaient. En chemisier blanc et lourde jupe de laine, elles avaient un châle drapé sur les bras, comme si la chaleur accablante ne les affectait pas. Mais comment était-elle arrivée jusqu'au bosquet sans se faire remarquer ?
Gardez les yeux ouverts et pas arriver sur elle !
Ordonna Gawain. Puis il désobéit à sa propre consigne en observant avec intérêt les trois matriarches qui approchaient. Des émissaires des Aiel Shaido, sans nul doute. Dans ces parages, ça ne pouvait être que ça. Les femmes avançaient d'une démarche tranquille, pas du tout comme si elles étaient en train d'approcher d'une multitude d'hommes armés. Tenues en arrière par un foulard plié, leurs cheveux leur tombaient jusqu'à la taille. Pourtant, Gawain avait lu que les Aiel les portaient courts, et elles arboraient toute une panoplie de bracelets et de colliers en or et en argent, dont les scintillements auraient dû les faire repérer à un quart de lieue de distance. Le dos bien droit et l'expression altière, les trois matriarches passèrent devant les guerriers sans leur accorder un regard, puis elles entreprirent de gravir la colline. Celle qui semblait être leur chef, une blonde, avait assez délacé son chemisier pour laisser voir la peau tannée par le soleil de sa poitrine, presque jusqu'à la naissance de ses seins. Ses deux compagnes, aux cheveux grisonnants et au visage ridé, devaient avoir au minimum deux fois son âge.
« Celle-là, je l'inviterai volontiers à danser !»
souffla un des jeunes soldats lorsque les matriarches furent passés. Il devait bien avoir 10 ans de moins que la belle blonde.
« Je m'en abstiendrai si j'étais à ta place, Arwin, »
dit sèchement Gawain.
« Ça pourrait donner lieu à un malentendu. »
Selon ses lectures, le mot « danse » chez les Aiel désignait la bataille.
« De plus, elle risquerait de te manger le foie au dîner. »
Ayant brièvement croisé le regard vert de la belle, Gawain n'y avait vu que de l'acier et de la glace. Fasciné, il suivit les matriarches des yeux jusqu'à ce qu'elles aient atteint le sommet de la colline, où les attendait une demi-douzaine d'Aes Sedai accompagnés de leurs champions. Sauf en ce qui concernait les deux sœurs rouges, puisque les membres de cet aja n'en avaient pas. Toutes les femmes entrèrent sous une des grandes tentes blanches, les 5 champions montant la garde tout autour. N'ayant plus rien à observer, Gawain reprit son inspection. Depuis que la nouvelle de l'arrivée des Aiel avait fait le tour des rangs, les soldats de la jeune garde étaient particulièrement vigilants, un détail qui déplut à l'officier, car ils auraient dû être sur le qui-vive avant cet événement. Parmi eux, même ceux qui n'arboraient pas la tour d'argent avaient participé à des combats autour de Tarvalon. Quelques semaines plus tôt, Eamon Valda, le seigneur capitaine des Capes Blanches en poste dans la région, était parti pour l'ouest avec presque tous ses hommes. Le peu qu'il laissait en arrière s'efforçant de continuer à contrôler les brigands et les voyous que leur chef avait fédérés. Par bonheur, la jeune garde avait dispersé cette racaille. Gawain aurait aimé croire que le départ de Valda devait être porté au crédit de ses camarades. De fait, la Tour Blanche avait tenu ses propres soldats éloignés des escarmouches, alors que les Capes Blanches n'avaient eu qu'une raison d'être dans la région. Découvrir un moyen de nuire aux sœurs. Mais en réalité, Valda devait avoir eu des motifs bien à lui. Par exemple, des ordres de Pedron Nihal, et dans ce cas, Gawain aurait donné cher pour connaître leur teneur. Au nom de la lumière, il détestait être dans l'ignorance, car ça revenait à avancer à tâtons dans le noir. Pour être franc, il avait les nerfs en pelote. En partie parce qu'on ne lui avait rien dit au sujet des Aiel, en tout cas jusqu'à l'aube du jour de la rencontre. Mais aussi parce qu'on lui avait caché la destination du détachement jusqu'à ce que Quaren Sedai, la sœur grise qui dirigeait les Aes Sedai, le prenne à part pour l'en informer. Lorsqu'elle conseillait Morgaz à Kemlin, Elaïda était à la fois secrète et brusque. Depuis qu'on l'avait nommée chère d'Amirline, cette ancienne Elaïda serait passée pour une femme ouverte et chaleureuse. Et si elle l'avait harcelée pour qu'il forme et dirige cette escorte, c'était sûrement pour l'éloigner de Tarvalon, il aurait parié sa chemise là-dessus. Lors des combats, la jeune garde s'était rangée du côté d'Elaïda. L'ancienne chère d'Amerline ayant été destituée par le hall, son étole et son sceptre confisqués, les combats visant à la libérer étaient purement et simplement de la sédition. Donc le choix avait été facile. Mais bien avant d'entendre la lecture des charges pesant sur Suan Sanche, Gawain avait eu ses propres doutes sur toutes les Aes Sedai. À force d'entendre que ces femmes tiraient les ficelles des pantins assis sur leur trône, il avait fini par ne plus y prêter attention. Puis il avait été témoin de ces manipulations. De leurs effets, en tout cas, sa sœur Elaine étant la marionnette qui avait dansé jusqu'à disparaître de sa vue, et peut-être de ce monde pour ce qu'il en savait. Sa sœur, oui, et une autre femme. Après avoir lutté pour que Suan reste en prison, Gawain avait en quelque sorte retourné sa veste, la laissant s'enfuir. Si Elaïda découvrait ça un jour, même la couronne de sa mère, la reine Morgaz, ne lui permettrait pas de garder la tête sur les épaules. En dépit de tout ça, il avait décidé de rester. Primo, parce que sa mère avait toujours soutenu la tour, et secondo, parce que Elaine voulait devenir une Aes Sedai. En guise de tertio, il y avait une autre femme nourrissant la même ambition, Egwene Alvere. Même s'il n'avait aucun droit de seulement penser à elle, abandonner la tour serait revenu à la trahir aussi. Dire qu'un homme choisissait son destin pour des raisons tellement dépourvues de substance. Mais les savoirs futiles ne changeaient rien à l'importance qu'on leur accordait. En passant d'une position à une autre, Gawain sonda d'un regard rageur la plaine battue par le vent. Il était bel et bien ici, à présent, en train d'espérer que les Aiel n'attaqueraient pas en dépit, ou à cause, de ce que les matriarches des Shaido négociaient en ce moment même avec Quaraine et les autres sœurs. Dans ce paysage désolé, il devait y avoir assez de guerriers pour qu'ils n'aient aucune chance de vaincre, même avec l'aide des Aes Sedai. De plus, il était en route pour Caerien, et il n'aurait su dire ce qu'il en pensait. Alors qu'elle le faisait jurer de garder secret de sa mission, Quaraine lui avait semblé effrayée par ce qu'elle disait, et elle était peut-être bel et bien. S'il était toujours prudent de disséquer les propos d'une Aes Sedai, ces femmes ne pouvaient pas mentir, mais rien ne les empêchait de distordre la vérité, il n'avait pas trouvé de sens caché aux paroles de Quaraine. Les 6 Aes Sedai allaient demander au dragon réincarné de les accompagner jusqu'à la Tour Blanche, la jeune garde commandée par le fils de la reine d'Andorre, leur tenant lieu d'escorte d'honneur. À ça, il ne pouvait y avoir qu'une raison, et elle troublait assez Quaraine pour qu'elle ose à peine y faire allusion. Tout aussi troublée, Gawain avait pourtant dû se rendre à l'évidence. Et Laïda s'apprêtait à annoncer au monde que la Tour Blanche soutenait le dragon réincarné. Enfin, c'était presque inconcevable. Avant d'accéder au poste suprême, Elaïda appartenait à l'Âge à Rouge. Ces sœurs-là abominaient les hommes capables de canaliser le pouvoir. À vrai dire, elles ne pensaient pas grand bien des mâles en général. Pourtant, en regard des prophéties, la chute de la pierre de Théar, jusque-là imprenable, confirmait que Randaltor était bien le dragon réincarné, et Elaïda elle-même affirmait que l'ultime bataille ne tarderait plus. Gawain avait quelque peine à penser que le jeune paysan timide qui était, littéralement, tombé dans le jardin du palais royal à Kemlin, ne faisait qu'un avec l'homme dont les exploits alimentaient les rumeurs qui remontaient le fleuve Erinin jusqu'au cœur de Tarvalon. Altor, disait-on, avait condamné à la potence des hauts seigneurs de Théar et permis à des Aiel de piller la pierre. Ensuite, et pour la deuxième fois seulement depuis la dislocation, il avait fait traverser la colonne vertébrale du monde à une horde d'Aiel qui s'était empressée de dévaster le Caerien. Les effets délétères de la folie? Le jour de leur rencontre, Gawain avait apprécié Rand. Aujourd'hui, il regrettait qu'il ait si mal tourné. Quand Gawain fut revenu à son point de départ, près du groupe de Jisao, un autre voyageur était apparu à l'ouest. Un colporteur au chapeau mou qui tenait par l'abri d'une mule de bât au flanc creux. Ayant remarqué les soldats, il se dirigeait droit vers la colline. Jisao se tendit et se calma dès que Gawain lui posa une main sur le bras. Les craintes du jeune homme étaient justifiées, mais si les Aiel décidaient de tuer ce type, il faudrait les laisser faire. Si la jeune garde déclenchait une bataille rangée avec les guerriers de ses interlocutrices, Quaraine ne lui décernerait sûrement pas une médaille. Comme s'il n'avait pas conscience du danger, le colporteur continua d'avancer en traînant la jambe, puis il s'arrêta après avoir dépassé le buisson que Gawain avait visé avec son caillou. Tandis que la mule entreprenait de brouter l'herbe jaunie, l'homme enleva son chapeau, esquissa une révérence qui s'adressait à tous les soldats, puis entreprit de s'éponger le visage avec un mouchoir à la propreté douteuse.
« Puisse la lumière briller sur vous, mes seigneurs. Comme quiconque de sensé peut le voir, vous êtes bien équipés pour voyager en ces temps périlleux. Mais s'il vous manque la plus petite chose, le vieux Miltessen l'a sûrement dans son stock. Et vous ne trouverez pas moins cher à 4 lieues à la ronde, mes seigneurs. »
Une affirmation peu risquée, car Gawain doutait qu'il y eût seulement une ferme dans un tel périmètre.
« Des temps périlleux ? Tu parles d'or, maître Tessen. Tu n'as donc pas peur des Aiel ?
Les Aiel, monseigneur. Ils sont tous autour de Caerien. Le vieux Mille les sent de loin, croyez-moi. En fait, ils regrettent qu'il n'y en ait pas ici. Avec eux, on fait d'excellentes affaires, parce qu'ils ont les poches pleines d'or. De l'or du Caerien, bien sûr. En outre, ils fichent la paix au colporteur. Tout le monde sait ça. »
Gawain s'abstint de demander pourquoi le colporteur ne se dirigeait pas vers le sud, puisque les Aiel présents au Caerien faisaient de si bons clients.
« Quelle nouvelle du monde, maître Tessen ? Nous venons du nord. » Et tu dois savoir des choses qui ne sont pas encore arrivées à nos oreilles.
Au sud, il s'en passe des vertes et des pas mûres, seigneur. Vous avez sûrement entendu parler de Caerien, la capitale, et du type qui se fait appeler le dragon réincarné.
Gawain acquiesça.
Eh bien, à présent, ce dragon annexe le royaume d'Andorre, la plus grande partie en tout cas. La reine est morte. Ce dragon finira par conquérir le monde avant de...
Tessen se tut sur un petit cri étranglé. Confus, Gawain s'avisa qu'il l'avait saisi par les revers de sa veste.
La reine Morgaz est morte. Parle, colporteur, et plus vite que ça.
Tessène roula des yeux comme pour chercher de l'aide, mais il n'en trouva pas et se mit à débiter à toute vitesse.
C'est ce qu'on raconte, monseigneur. Le vieux Mille ne sait rien, mais il croit que c'est vrai. Tout le monde le dit et pense que c'est l'œuvre du dragon. Seigneur, mon cou, ne me le tordez pas, s'il vous plaît. Seigneur.
Gawain lâcha le colporteur, comme si son contact lui brûlait la paume des mains. À l'intérieur, il brûlait, effectivement. Mais c'était un autre coup qu'il aurait voulu tordre.
La fille héritière. Y a-t-il des nouvelles de la fille héritière? Elaine.
Dès qu'il fut libre de ses mouvements, Tessène recula d'un pas.
Rien dont le vieux Mille soit certain, seigneur. On dit qu'elle est morte aussi, victime du même homme. Mais le vieux Mille ne peut rien affirmer.
Gawain hocha lentement la tête. Comme du fond d'un puits, ses pensées remontèrent à la surface de son esprit. Encore enfant, et à peine assez grand pour regarder dans le berceau d'Elaine, il avait juré que son sang et sa vie passeraient toujours après ceux de sa sœur. C'était le serment qu'il y ait un prince de l'épée à la future reine.
Merci, maître Tessène. Tu peux commercer avec... Eh bien, certains de mes hommes ont peut-être besoin de...
Gareth Bryne avait dû lui expliquer ce que signifiait exactement ce serment. Mais dès cette époque, il avait compris qu'il devrait lui rester fidèle, même s'il ne réussissait rien d'autre dans sa vie.
Occupez-vous du colporteur,
dit-il à Chisao, quand il s'avisa que le jeune soldat et ses camarades le regardaient d'un air inquiet. Sa mère morte, Elaine aussi. Ce n'était qu'une rumeur, mais quand tout le monde les répétait, les rumeurs finissaient par devenir la stricte vérité. Après avoir gravi sans s'en apercevoir une partie de la pente qui menait au camp des Aes Sedai, Gawain s'avisa qu'il avait mal aux mains. Baissant les yeux, il vit qu'elle serrait toutes les deux la longue poignée de son épée. Au prix d'un effort de volonté, il parvint à les forcer à lâcher prise. Quarren et les autres voulaient conduire Randaltor à Tarvalon. Mais si sa mère était morte... Et Elaine. Si sa sœur et sa mère avaient péri, on verrait bien si le dragon réincarné pouvait survivre avec une épée plantée dans le cœur. Après avoir tiré sur son châle à franges rouges, Catherine Alroudine se leva en même temps que les autres femmes jusque-là assises comme elle sur des coussins rouges.
« Puisque nous en sommes convenus, il en sera ainsi, »
déclara la rondelette Quarren avec sa pompe coutumière. Catherine ravala de justesse un ricanement. C'était une rencontre avec des sauvages, pas des négociations menées à bien entre la Tour Blanche et un dirigeant estimable. Les trois Aiel ne trahirent pas plus d'émotion que depuis leur entrée sous la tente. Ça, c'était une surprise. En face de deux ou trois Aes Sedai, les rois et les reines laissaient transparaître leurs sentiments. Alors devant six sœurs, des sauvages sans cervelle auraient dû trembler de tous leurs membres. À moins que leur esprit obtus, justement, soit une sorte de protection. La chef de cette délégation, Sevana, un prénom suivi par une série d'incompréhensibles balivernes au sujet d'un clan, de Shaido quelque chose et d'un titre pompeux, répondit sèchement.
C'est convenu à condition que je puisse voir son visage.
Arborant une moue boudeuse, cette aïeule portait son chemisier amplement délacé afin d'attirer le regard des hommes. Qu'elle ait été choisie comme porte-parole montrait à quel point son peuple manquait de décence et de sens commun.
Quand il sera vaincu, je veux le voir. Et je veux qu'il me voie aussi. Sans ça, votre tour blanche ne pourra pas compter sur les Shaido.
Le ton impérieux de l'aïeule força Catherine à réprimer un sourire moqueur. Une matriarche, ça? Non, une idiote, tout simplement. La tour ne comptait sur personne et elle n'avait pas d'alliés. Seulement des gens qui la servaient volontairement et d'autres qui le faisaient sans le savoir. Une contraction fugace, au coin des lèvres de Quarren, trahit son irritation. Si la sœur grise était une excellente négociatrice, elle ne supportait pas qu'on ne fasse pas tout dans les règles, chacun posant les pieds à l'endroit précis où c'était prévu.
« Sans l'ombre d'un doute, vos services méritent la récompense que vous demandez. »
Une des aïeles aux cheveux gris, Tarva ou quelque chose comme ça, plissa le front. Mais Sevana hocha la tête, comme si elle avait compris ce que Quarren entendait lui dire et ne s'offusquait pas de la forme assez peu fleurie. Avec Eriane, une sœur verte, et Nessune, une marron, plus les cinq champions qu'elles avaient à elles trois, Quarren sortit de la tente pour escorter les aïeles jusqu'au pied de la colline. Catherine sortit aussi et daigna aller jusqu'à la lisière des arbres pour les suivre du regard. Au moment de leur arrivée, les aïeles avaient dû avancer seules, parce qu'elles étaient là pour demander quelque chose. À présent, on les gratifiait de tous les honneurs, afin qu'elles croient vraiment être des amis et des alliés des Aes Sedai. bien trop d'efforts, probablement, pour des sauvages incapables de capter de telles subtilités. Au pied de la colline, assis sur un rocher, Gawain contemplait la plaine. Qu'aurait-il pensé s'il avait su que ces jeunes gars et lui participaient à cette mission seulement parce qu'on avait voulu les éloigner de Tarvalon? Comme Elaïda, le Hall détestait l'idée de nourrir en son sein une meute de jeunes loups impossibles à discipliner. Avec un peu de chance, il serait possible de manipuler les Shaïdo pour qu'ils résolvent définitivement ce problème. En tout cas, c'était l'ordre donné par Elaïda. Ainsi, la mort de Gawain ne risquerait pas de braquer Morgaz contre la tour.
« Si tu continues à regarder ce jeune homme, Catherine, je vais finir par me dire que tu serais mieux dans la Javert. »
Catherine réprima sa première réaction, la colère, et inclina humblement la tête.
« Je me demandais seulement autour de quoi pouvaient bien tourner ses pensées, Kalina Sedai. »
Exactement la dose de respect adaptée à un endroit si fréquenté, et peut-être même un peu trop. Galina Kasban paraissait plus jeune que l'âge véritable de Catherine, alors qu'en réalité elle était deux fois plus âgée. Depuis 18 ans, cette femme au visage rond dirigeait la Jarouge. Bien entendu, seules les sœurs de cette obédience le savaient, car cette information ne filtrait jamais à l'extérieur. D'ailleurs, Galina ne siégeait même pas comme représentante de son ordre au hall de la tour. Contrairement aux dirigeantes des autres Ajas, aurait parié Catherine. En toute logique, Elaïda aurait dû nommer Galina à la tête de cette expédition, et pas cette baudruche gonflée d'importance de Quaren. Mais une sœur rouge, avait fait remarquer Galina, aurait risqué d'éveiller les soupçons de Randaltor. En principe, la chair d'Amerline devait être au-dessus des Ajas, même celui d'où elle provenait. Pourtant, si Elaïda consultait quelqu'un, ce dont on pouvait douter, c'était à coup sûr Galina.
Viendra-t-il de son plein gré, comme Quaren le pense?
Demanda Catherine.
Peut-être,
répondit Galina, très sèche.
L'honneur que cette délégation représente pour Altor devrait le convaincre de rejoindre Tarvalon en portant son trône sur son dos.
Catherine ne se donna pas la peine d'acquiescer.
Si elle en a l'occasion, Sévana la sauvage le tuera. Dans ce cas, il ne faut pas qu'elle en ait l'occasion.
Galina pinça les lèvres.
La chair d'Amerline détesterait que ses plans soient bouleversés. Toi et moi, avant de mourir, nous risquerions de passer très longtemps à hurler dans le noir.
Tirant d'instinct sur son châle, Catherine frissonna. Avec toute la poussière qui flottait dans l'air, elle aurait dû mettre sa cape légère. Si dévastatrices que fussent les colères d'Elaïda, ce n'était pas ça qui les tuerait. Alors qu'elle avait reçu son châle 17 ans plus tôt, Catherine, jusqu'au matin même, avant de quitter Tarvalon, ignorait qu'elle ne partageait pas avec Galina sa seule appartenance à l'Aja Rouge. Membre depuis 12 ans de l'Aja Noire, elle n'avait jamais su que Galina l'était aussi, et depuis bien plus longtemps que ça. Par nécessité, les sœurs noires se cachaient, y compris les unes vis-à-vis des autres. Lors de leurs rares réunions, elles se dissimulaient le visage et déguisaient leur voix. Avant Galina, Catherine avait identifié deux de ses collègues seulement. Ses ordres, elle les trouvait sur son oreiller ou dans une poche de sa cape, l'encre étant conçue pour se volatiliser si d'autres mains que les siennes touchaient le parchemin. On lui avait indiqué un endroit où laisser ses éventuels messages, avec l'interdiction absolue d'attendre pour voir qui venait les prendre. En 12 ans, elle n'avait jamais désobéi. Il y avait peut-être des sœurs noires dans le groupe qui était parti de Tarvalon un jour après le sien, mais elle n'avait aucun moyen de le savoir.
« Pourquoi nous châtirait-on ? »
demanda Catherine. Même si c'était pour le livrer à Elaïda, les ordres prescrivant d'épargner le dragon réincarné n'avaient aucun sens.
« Pour quelqu'un qui a juré d'obéir aveuglément, les questions sont dangereuses. »
Catherine frissonna de nouveau.
« C'est vrai, Galina Sedai. »
Pourtant, l'interrogation demeura. « Pourquoi ?»«
Elles ne nous ont manifesté ni respect ni honneur, »
marmonna Terava.
« Elles nous ont laissé entrer dans leur camp comme si nous étions des chiennes dédentées. Puis elles nous ont raccompagnées sous bonne garde, comme des voleuses. »
Sévana ne tourna pas la tête vers sa compagne. Tant qu'elle ne serait pas de retour dans le bosquet, elle entendait ne pas broncher, car les Aes Sedai étaient sûrement des signes de nervosité chez leurs nouvelles alliées.
« Elles n'ont pas refusé mon exigence, Terava. C'est bien suffisant pour le moment. »
En attendant mieux. Car un jour, tous ces pays seraient des proies à piller pour les Shaïdo. Et la Tour Blanche aussi.
Ce plan est mal conçu,
dit la troisième matriarche d'un ton sec.
Les matriarches évitent les Aes Sedai. Il en a toujours été ainsi. C'est peut-être différent pour toi, Sévana. Étant la veuve de Kouladin, tu parles comme un chef de tribu. Et ça continuera jusqu'à ce que nous ayons envoyé un nouvel homme à Ruidéan. Mais les autres matriarches ne devraient pas se mêler de tout ça.
Sevana dut se forcer pour continuer à marcher comme si de rien n'était. Desein s'était dès le début opposé à ce qu'on la nomme matriarche. Arguant qu'elle n'avait pas suivi de formation, ni fait l'indispensable séjour à Ruidéan, elle affirmait en outre que son statut de chef de tribu provisoire la disqualifiait. De plus, qu'elle soit la veuve de deux chefs et non d'un seul, signifiait peut-être qu'elle avait le mauvais œil. Par bonheur, les matriarches Shaido avaient en majorité choisi le camp de Sevana, pas celui de Desein. Hélas, celle-ci avait malgré tout trop de partisanes pour qu'il soit possible de s'en débarrasser définitivement. Les matriarches étaient intouchables. Même celles qui avaient épousé la cause des traîtres et des abrutis qui s'étaient opposés aux Shaido devant Kérienne. Cela dit, Sevana ne désespérait pas de trouver une solution discrète. Comme si les doutes de Desein l'influençaient, Terava marmonna à demi pour elle.
L'erreur serait au contraire de nous dresser contre les Aes Sedai. Avant la dislocation du monde, nous les servions, et c'est pour nous punir de les avoir trahis que nous fûmes exilés dans la tierce terre. Si nous les trahissons de nouveau, nous serons détruits.
Des fadaises que tout le monde croyait, tirées d'anciennes légendes et légitimées par les coutumes. Sevana avait cependant des doutes. Les Aes Sedai lui avaient semblé faibles et peu avisés. Par exemple, voyager avec pour escorte quelques centaines d'hommes et traverser des pays où les vrais Aiel, les Shaido, pouvaient lancer contre elle des milliers de guerriers.
Un jour nouveau s'est levé,
dit Sevana, reprenant l'introduction d'un des discours qu'elle avait tenu devant les matriarches.
Nous ne sommes plus liés à la tierce terre. Tout ce qui y était a changé. N'importe qui peut le voir. Si nous ne changeons pas aussi, nous serons anéantis.
Sevana n'avait jamais précisé l'étendue des changements qu'elle estimait requis. Si ça ne tenait qu'à elle, les matriarches Shaido n'enverraient plus jamais un homme à Ruidéan.
Nouveau jour ou non,
grommela Desein.
Que ferons-nous de Randall Thor si nous parvenons à l'arracher aux griffes des Aes Sedai? Il serait préférable et plus facile de lui planter un couteau dans le cœur pendant que les sœurs l'escortent vers le nord.
Sevana ne répondit pas, simplement parce qu'elle ne savait que dire. Pas encore, en tout cas. Tout ce qu'elle savait, pour l'instant, se résumait à ça. Si le soi-disant Karakarn, le chef suprême de tous les Aiel, était un jour enchaîné devant sa tente comme un chien enragé, cette terre appartiendrait pour de bon aux Shaido. Et à leur chef, elle-même. Elle le savait, bien avant que l'étrange homme des Terres Mouillées l'ait trouvé d'une mystérieuse manière, dans la montagne que ces gens appelaient la dague du fléau de sa lignée. Après lui avoir remis un petit cube de pierre très dur couvert de bizarres sculptures, il lui avait dit comment l'utiliser, avec l'aide des matriarches capables de canaliser, lorsque Randall Thor serait en son pouvoir. Sevana portait en permanence le cube dans sa bourse. Sans savoir exactement ce qu'elle finirait par faire, elle n'avait jamais parlé à personne de l'homme et de l'objet. La tête haute, elle continua d'avancer sous le soleil brûlant, pourtant suspendu dans un ciel d'automne.